Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver pour cette quatrième saison d'Entendez-vous l'écho, avec une équipe fidèle au poste, Marguerite Caton, Xavier Martinet, Aliette Auvine, Léa Sabourin et Antoine Jourdan, à la réalisation Anne de Pelchin et Philippe Baudouin, à la technique aujourd'hui Jean-Frédérics. Priorité à la santé sur l'économie. La présentation du plan de relance qui devait avoir lieu demain a finalement été repoussée d'une semaine au nom de l'urgence sanitaire. Un plan de 100 milliards d'euros qui vise à redresser l'économie alors que la France traverse une tempête historique. Le PIB a fait une chute de près de 14% au deuxième trimestre et la reprise est encore fragile. Alors comment relancer l'activité à l'heure où l'épidémie reprend de la vigueur? C'est le casse-tête qui va nous occuper jusqu'à 15h en compagnie de nos trois invités. Anne-Laure Delatte, conseillère scientifique au CEPI, le Centre d'études prospectives et d'information internationale. Vincent Charlet, délégué général du think tank La Fabrique de l'Industrie. Et Mathieu Plane, directeur adjoint à l'OFCE. Bienvenue à tous dans Entendez-vous l'écho. Anne-Laure Delatte, Vincent Charlet et Mathieu Plane, bonjour.
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 Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Avant de commencer notre discussion, un mot sur la nouvelle formule d'Entendez-vous l'écho. On a fait quelques changements. Désormais, chaque lundi, c'est une table ronde d'actualité économique qui ouvrira la semaine. Un débat entre trois invités qui sera suivi par la bibliothèque de l'écho consacrée aux nouveaux essais. Nous entamerons à partir du mardi notre série thématique qui sera déclinée en trois épisodes. En fin d'émission, du mardi au jeudi, vous retrouverez le journal de l'écho de Xavier Martinet. Et enfin, vendredi, ce sera un face-à-face entre deux économistes autour d'un grand sujet qui divise la discipline et un tout nouveau rendez-vous, Racontez-moi l'écho, qui se propose de croiser l'économie et la fiction, qu'il s'agisse de littérature, de cinéma ou de théâtre. Voilà le programme que nous vous avons concocté. On espère qu'il vous plaira et on revient maintenant à notre sujet du jour, plan de relance, l'urgence du long terme.
Nous avons massivement dépensé 460 milliards d'euros d'engagement public à ce jour. On aura à le compléter par un plan de relance massif sur des secteurs d'avenir et sur les compétences, parce que je veux que ce soit un plan de relance industriel pour bâtir notre souveraineté industrielle et donc faire relocaliser certaines industries, écologique, et donc, je l'ai dit, ce nouveau chemin ne passe que par la capacité à développer la filière hydrogène, les nouveaux moteurs, à développer massivement la rénovation thermique des bâtiments, à équiper beaucoup mieux le pays. Ça, ce sont des investissements. Ces investissements, ils sont légitimes. Et je peux les assumer devant la nation en disant ils font partie de cette dette Covid que nous allons mettre de côté et amortir sur le très long terme.
Le chef de l'État Emmanuel Macron lors de son interview du 14 juillet. Alors on va revenir tout au long de l'émission sur les grandes lignes du plan de relance qui ont été dévoilées au cours de l'été. Mais d'abord commençons par l'état de santé de l'économie française. Je le disais, la chute du PIB a été considérable, mais elle a été finalement moins forte que prévu. Et l'activité est repartie au lendemain du confinement. Mais ce qu'on constate aujourd'hui, Mathieu Plane, c'est que déjà la reprise s'essouffle.
Oui, alors la reprise s'essouffle, bon, il est un peu tôt pour le dire parce qu'on n'a pas l'ensemble des éléments. C'est un peu particulier parce qu'on a à la fois une chute historique du PIB, hein, vous l'avez dit, près de 14% au deuxième trimestre. Si on cumule depuis même mi-mars, on est plutôt à 19% de chute d'activité. Mais il se trouve que les chiffres sont un peu moins mauvais que ce que la plupart des économistes anticipaient, nous aussi d'ailleurs. Et notamment parce que la phase de déconfinement, surtout sur la partie mai-juin, en particulier en juin, c'est plutôt bien passé en termes de consommation et on a vu même un rattrapage de consommation sur certains biens manufacturés, typiquement les biens d'équipement du foyer. En juin, on a pas mal de matériel de transport. Après, dans les services, c'était la réparation d'automobile. Donc finalement, un rattrapage assez net. Sauf que ce qu'on voit d'après les enquêtes, enfin c'est ce que dit plutôt la Banque de France, c'est qu'en juillet ou en août, on serait encore 7% à peu près en dessous de notre niveau d'activité d'avant. Donc c'est-à-dire qu'on a eu un rattrapage assez net, mais que là maintenant on resature, c'est-à-dire qu'on sera en dessous de notre niveau d'activité d'avant Covid. Et donc ça pose question, c'est-à-dire comment on va combler ces 7%. C'est-à-dire, et la question qui se pose, c'est est-ce que c'est structurel, lié à notre structure productive, lié à l'aéronautique, au tourisme, à un certain nombre de choses, ou est-ce que c'est lié à la prudence des ménages vis-à-vis de la consommation, parce qu'il y a une épargne de précaution qui est en train de se former. Et donc à mon avis, c'est les deux facteurs essentiels pour le plan de relance, et comment vous faites pour faire dégonfler cette épargne qui s'est accumulée. Et deuxièmement, comment vous transformez votre modèle de production, sachant qu'il y a des secteurs qui seront forcément beaucoup moins moteurs maintenant qu'auparavant.
Il y a beaucoup de questions qui se posent effectivement autour de la consommation. Il y a eu, vous l'avez dit, une certaine reprise de l'activité au lendemain du confinement grâce à ce retour de la consommation. On en parlera mercredi. Peut-être un premier bilan, Anne-Laure Delatte, sur cette reprise économique qui se fait encore assez timidement, comme nous l'expliquait Mathieu Plane.
Oui, je crois que la question qui se pose, effectivement, quand on réfléchit à concevoir un plan de relance, c'est, comme vient de l'expliquer Mathieu, est-ce que c'est structurel ou conjoncturel ? Il y a une autre façon de le dire, c'est est-ce que on doit protéger l'offre ou protéger la demande, ou se concentrer sur l'offre ou la demande. Et c'est vraiment une façon d'analyser le plan et les annonces qui vont être faites, qui va nous permettre de comprendre un peu l'esprit du plan. Et là, les analyses ne sont pas toutes complètement d'accord. C'est-à-dire que vous avez, d'un côté, en fait, l'offre a été complètement suspendue pendant le confinement, la demande aussi. Et comme vient de le dire Mathieu, ce qui est assez étonnant, c'est que l'épargne, finalement, a beaucoup augmenté pendant ce confinement. Ce qui veut dire que, et les ménages n'ont pas trop touché, en fait, à cette épargne pour l'instant, pour reconsommer. Donc ça donne un indicateur. En tout cas, le gouvernement explique pour l'instant que finalement, si on doit faire quelque chose, c'est du côté de l'offre, du côté des entreprises, parce qu'il n'y a pas trop de problèmes du côté de la demande. Voilà, c'est ça la justification de l'esprit du plan qui va être annoncé la semaine prochaine.
Un plan donc plus proche de l'offre que de la demande. Vincent Charlet, vous êtes d'accord avec cette analyse, Anne-Laure Delatte ?
En tout cas, j'ai observé moi aussi que la demande fait plutôt partie des atouts historiques de l'économie française. C'est un des piliers sur lesquels elle s'appuie. Et j'ai constaté, comme nous, que l'épargne s'accumulait. La question est de savoir si cette réserve, on va dire, de consommation à venir pourra être réutilisée ou pas. En effet, dans le même temps, les entreprises ont été comme structurellement affaiblies ou parfois coupées dans leur élan, sachant que l'effort de montée en gamme et de modernisation est toujours quelque chose qui réclame de la visibilité et une prise de risque. Bon nombre d'entreprises, notamment parmi les plus petites, ont été là. Très malmené, oui.
Et qu'est-ce que les exemples étrangers nous apprennent à ce sujet ? On peut se demander notamment si les mesures de soutien à l'économie, telles qu'elles ont été prises jusqu'ici, Mathieu Plane, ont permis cette reprise, ou au moins d'amortir le choc, mais en même temps, ce qu'on constate, c'est que la France a plus souffert, par exemple, que l'Allemagne ou les États-Unis.
Oui, alors bon, c'est vrai que on a des éléments de comparaison. Faire attention, parce que d'abord, c'est des premiers chiffres de comptabilité nationale. Il faut savoir qu'il faut à peu près 3 ans pour avoir les chiffres définitifs. Que, étant donné la difficulté aujourd'hui à produire des statistiques, on peut imaginer que ça pourrait être fortement révisé, mais on voit une hiérarchie qui est pas tellement surprenante, c'est-à-dire qu'on voit Italie, Espagne qui seraient le plus en difficulté, la France pas loin derrière, et des pays du Nord ou l'Allemagne un peu mieux, et on voit que les États-Unis s'en sortent un peu mieux. Alors pourquoi la première raison, qui est assez simple, c'est effectivement ce qu'on disait, la spécialisation sectorielle. Premièrement, c'est-à-dire qu'il y a des secteurs, le tourisme dans ces pays-là représente une part importante du PIB, et il se trouve que en plus nous dans l'industrie, on est fort dans le transport aérien. Donc ça tombe mal, parce que typiquement la crise de la Covid frappe de plein cœur, on va dire plutôt les atouts de l'économie française. Après, il y a autre chose aussi, c'est que quand on regarde les courbes, il y a des universitaires d'Oxford qui ont fait ça, qui ont montré en fait l'intensité du confinement, et on voit que en termes de déplacements notamment. De limitation de consommation, de fermeture administrative, etc. Et on voit que les 3 pays qui ont connu le confinement le plus sévère sont finalement l'Italie, l'Espagne et la France. Et donc il y a finalement un lien assez net, une corrélation assez nette entre ce confinement et l'intensité de ce confinement et la chute d'activité. La question, c'est ce qu'on dit, c'est est-ce que c'est conjoncturel ou structurel ? Parce que quand on déconfine, on voit que la consommation repart, mais on n'a pas rattrapé l'ensemble de cette consommation. Donc c'est comment on arrive ou pas à revenir à notre niveau d'activité d'avant et savoir si ça c'est conjoncturel ou est-ce qu'on doit dire on a une nouvelle trajectoire de croissance potentielle, notre PIB potentiel et notre offre a changé. Et donc là, ça nécessite effectivement des plans d'investissement différents et surtout, on ne peut pas avoir des réponses que de court terme.
Ce que l'on comprend bien, c'est que les effets de la crise vont se faire davantage ressentir dans les prochains mois, que ce soit à l'étranger ou en France, notamment sur le marché de l'emploi, Anne-Laure Delatte.
Oui, en fait, malheureusement, on n'en est qu'au début. C'est-à-dire que là, pour l'instant, l'État s'est substitué au marché. En fait, il a joué le rôle d'acheteur en dernier ressort dans la plupart des économies développées, dans celles qui pouvaient se le permettre. Alors, ce qu'il faut peut-être avoir en tête, c'est que la France a été assez généreuse, mais finalement, elle est dans la moyenne des pays développés. Elle n'a pas du tout été la plus généreuse pour l'instant. Si on veut faire la différence entre le plan de relance qui va être annoncé la semaine prochaine et le plan de soutien, disons, qui a été fait pendant le Covid, j'ai regardé, on est cinquième dans le monde. C'est-à-dire qu'on a mis pour l'instant entre 4 et 5% du PIB français en mesure fiscale de soutien à l'économie. Si vous comparez, l'Allemagne en a mis 8 et les États-Unis en ont mis 10 environ. Donc ce qui s'est passé, c'est que l'État, étant l'acheteur en dernier ressort, pour l'instant, on a eu des mesures de chômage partiel pour le coup absolument exceptionnelles en France. Là, si vous comparez, on a été plus généreux que les Allemands, largement plus que les Américains. Donc, pour l'instant, on ne voit pas. C'est-à-dire que le français moyen, le citoyen français, ne réalise probablement pas encore qu'on va avoir une série de faillites qui va être probablement trois fois plus importante que 2008. On va avoir des problèmes de trésorerie et de capitalisation qui vont faire qu'on va avoir des interruptions d'activité qui expliquent cette récession et la hausse du chômage.
Et dans des secteurs beaucoup plus que dans d'autres, Vincent Charlet, en France, les secteurs les plus touchés, on le sait, c'est le tourisme, l'hôtellerie, le transport aérien et l'événementiel. Et c'est justement dans ce contexte qu'Emmanuel Macron a annoncé ce plan effectivement de relance de 100 milliards d'euros qui s'ajoute aux mesures de soutien à l'économie prises ces derniers mois avec l'idée peut-être de réussir à allier à la fois l'urgence et le long terme.
Oui, ça, de toute façon, c'est la difficulté. Je ne dirais pas du tout que les défis des prochains mois sont mineurs, mais à l'échelle, on va dire, du siècle ou du demi-siècle, il reste pour nos économies un enjeu de transition énergétique qui est, à mon sens, colossal et qui doit, in fine, guider tous les efforts. Donc, c'est comme ça que je comprends votre question d'articuler le court terme et le long terme. En effet, permettre à l'économie de sortir de ce tunnel, tout en investissant, oui, et en s'armant pour les défis, qu'ils soient technologiques ou de demande, ou simplement même de changement de nos modes de vie, accepter que des choses deviennent chères ou d'autres disparaissent, c'est bien ça qui est devant nous. Oui.
L'écologie a en effet été annoncée comme une mesure, en tout cas un objectif important de ce plan. On va en parler, mais d'abord, pour rester encore un petit peu sur cette question de l'urgence et notamment la volonté de limiter l'explosion du chômage, il y a un soutien renforcé aux entreprises pour éviter les faillites en série, c'est ce qui est prévu, parce que l'une des inquiétudes, Mathieu Plane, porte sur l'endettement des entreprises, c'est un des risques les plus importants aujourd'hui, notamment pour les TPE et les PME.
Disons que c'est ce qui a permis pour le moment de sauver un certain nombre d'entreprises, c'était une nécessité, c'est-à-dire de faciliter la trésorerie des entreprises dans un moment où elles n'avaient plus d'activité et restait un certain nombre de coûts fixes. Donc ça passe par les prêts garantis par l'État, je sais plus, on doit être à 120 milliards aujourd'hui, et des reports de dettes fiscales, il doit en avoir à peu près pour 40 milliards. Donc il y a 160 milliards qui ont été reportés. Et la question qui va se poser, c'est qu'à un moment, il faudra les payer, a priori. Il n'y aura pas d'annulation de dette là-dessus, et donc c'est comment on va échelonner cette dette. Et pour certains nombres d'entreprises, la question des fonds propres va être aussi essentielle parce que nous on a fait ce calcul-là à l'OFCE, c'est-à-dire que sur les 4 mois, donc on a fait ça depuis le début du confinement jusqu'à début juillet, globalement, on a un peu plus de 160 milliards de pertes, il y en a à peu près 60% qui sont absorbés par les finances publiques à travers les dispositifs, les différents dispositifs et les effets, on va dire, de stabilisateurs automatiques, mais il en reste à peu près un tiers qui est à la charge des entreprises, c'est-à-dire qu'il y a plus de 50 milliards de pertes encore accumulées par les entreprises. Or, aujourd'hui, elles ont tenu le coup par ces crédits de trésorerie, sauf que si vous restez avec 7% d'activité en moins et que vous avez ces pertes accumulées, à un moment donné, vous avez des dettes qui s'accumulent, vous avez un mur de dettes et des niveaux d'activité qui sont certainement en deçà, plus des coûts supplémentaires qui sont liés à la gestion de la crise, avec une question de productivité, etc. derrière. Donc, c'est là le risque fort de faillite qui peut se produire à l'automne. C'est pour ça qu'on n'est pas sur un choc juste transitoire, mais on peut avoir des effets permanents qui sont très inquiétants. Le problème, c'est qu'on ne sait pas quelle est l'ampleur de ces chocs. On sait que c'est très important, mais on ne sait pas si effectivement ça sera 3, 4, 5 fois plus fort que ce qu'on a vu en 2008. Et est-ce qu'il y a des effets réversibles ou pas ?
La question de la dette des entreprises et notamment des PME, c'est une question centrale, Anne-Laure Delatte, qui soucie particulièrement le gouvernement.
Oui, mais qui est tristement classique dans une crise comme on est en train de vivre. Alors, si cette crise-là n'est pas classique, en tout cas, il y a des effets macroéconomiques qu'on connaît bien. Et en effet, la difficulté, c'est que si vous avez des problèmes de liquidité, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas payer vos fournisseurs et que vous pouvez entraîner des chutes d'activité et des faillites. Vous voyez, une petite entreprise qui est incapable de payer ses fournisseurs simplement parce qu'elle-même n'a pas été payée, donc il y a des problèmes de liquidité dans toute l'économie, ça peut entraîner des faillites. Donc, le raisonnement du gouvernement français, ça a été de dire... On remédie à ça, on fait du PGE, donc du prêt garanti par l'État, de façon absolument exceptionnelle. Pareil, si on regarde la stratégie des autres gouvernements, des autres États avancés, ça n'a pas été fait dans cette ampleur-là. Donc vraiment, je crois qu'il y a eu une réponse très forte et absolument nécessaire, parce que ce que vous voulez éviter au départ, c'est que des problèmes juste de trésorerie entraînent ensuite des faillites qui, là, sont irrémédiables. Donc c'est pour ça qu'on a fait les PGE. Mais comme le dit Mathieu, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on en fait ? Est-ce que, en fait, quelles sont les entreprises qui sont capables de rembourser et quelles sont les entreprises qui ne sont pas capables ? Est-ce que, par exemple, dans le plan de relance, est-ce qu'on va avoir de l'argent qui va être utilisé pour transformer ces prêts en actifs, en réalité ? Enfin, ça veut dire tout simplement éviter à certaines entreprises d'avoir à rembourser ces prêts. Donc, comme en Allemagne, par exemple, il y a une partie des fonds qui a été utilisée pour capitaliser ou racheter des parts dans certaines entreprises, que l'État achète des parts dans certaines entreprises qui sont incapables de rembourser. Voilà, donc l'idée, c'est qu'on a vraiment fait un plan de soutien qui, à mon avis, a été quand même extrêmement efficace pour l'instant, mais il y a une incertitude, et comment est-ce qu'on passe du conjoncturel au structurel, comment est-ce qu'on évite cette série de faillites en étant absolument incapable, de toute façon, d'annuler les PGE. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de fantasme dans pas mal de PME françaises en ce moment. Vous avez pas mal d'entrepreneurs qui pensent qu'ils pourront éviter de rembourser ça. Ça n'est pas possible. Et deux, si on veut faire des choses trop sélectives, c'est trop compliqué. En fait, on pourrait envisager des espèces de mécanismes où on se dit, en fonction du bilan des entreprises, je vais leur demander de me rembourser ou je vais restructurer leurs dettes.
Mais ce serait trop compliqué de sélectionner les entreprises qui le mériteraient, entre guillemets.
Pour l'instant, en tout cas, il semble qu'on n'a pas les mécanismes à Bercy pour faire ça de façon vraiment extrêmement fine.
Et cette idée que l'État entre au capital de certaines entreprises, le temps qu'elles se rétablissent, Vincent Charlet, qu'est-ce que vous en pensez ?
C'est pas à moi d'avoir l'avis, ça vient d'être exposé là à l'instant. Moi, ce que je regrette, c'est que justement, ça a pris un tour polémique. C'est-à-dire que cette question d'entrée au capital a nourri, on va dire, une forme d'irritation a priori par certains qui se sont dit « Ah, attention, c'est le retour des nationalisations, etc. » Il n'en est pas question. Or, comme ça vient d'être exposé, il s'agit justement de régler un problème, qui est un problème commun, en fait, qui est que une mesure de soutien qui a prouvé son efficacité ne devienne pas un fardeau inutilisable. Donc, il n'y a aucune raison a priori d'être opposé à ce genre de mécanique.
Vous l'avez dit, Anne-Laure Delatte, il y a ce plan de relance qui pourrait être considéré plutôt du côté de l'offre, mais du côté de la demande, il y aurait un volet solidarité d'un montant de 20 milliards d'euros à destination des plus défavorisés. Et là, on voit bien que c'est une mesure qui semble assez essentielle pour éviter, comme on le disait, une crise sociale de très grande ampleur, parce que des faillites, il va y en avoir, Mathieu Plane.
Oui, déjà, les chiffres le montrent. Hein. C'est-à-dire qu'on voit à partir de juin déjà une accélération du nombre de faillites par rapport à l'année dernière. Ça, c'est assez clair. Et les chiffres de l'emploi, hein. Il suffit de regarder les chiffres de l'emploi. On a déjà plus de 600 000 destructions d'emplois.
Faut regarder avec des chiffres en trompe-l'œil, parce que effectivement, les chiffres montrent que le nombre de demandes d'emploi baisse, alors qu'en réalité, que les gens ne font pas la demande.
Voilà. Parce que le chômage BIT, il faut être disponible pour travailler.
Le Bureau international du travail.
Voilà, pardon. Et donc, du coup, le taux de chômage BIT ne veut absolument rien dire en ce moment. Hein. Faut pas regarder ça. Effectivement, il faut regarder plutôt du côté des créations d'emplois. Et ce qu'on voit, c'est qu'on a eu plus de 600 000 destructions d'emplois en l'espace de donc un peu plus de 4 mois. Hein. C'est-à-dire que c'est deux trimestres, mais ça a commencé plutôt à la mi-mars. Pour rappel, en 2009, c'est sur l'ensemble de l'année, on avait détruit 300 000 emplois. Là, on est déjà deux fois plus en trois fois moins de temps. Donc, ça monte l'intensité. Alors, pour le moment, c'est essentiellement les contrats courts, les intérimaires, c'est vraiment les variables d'ajustement de court terme. Hein. Et donc, les jeunes sont particulièrement victimes, des victimes économiques pour le coup, de cette crise. Et la phase 2, c'est les plans de licenciement qu'on peut avoir. Donc c'est vrai qu'il y a un volet social où on le voit aussi potentiellement hein, sur la question du chômage des jeunes. Mais après, il va falloir voir comment tout ça est calibré. Et surtout, cette crise, elle va exacerber les inégalités, parce qu'on le voit bien entre ceux qui sont plus protégés et moins protégés selon les secteurs dans lesquels vous travaillez, selon votre âge, vous ne serez pas ciblés de la même façon. Y compris sur les territoires, hein. On va avoir des différences assez fortes, sachant que peut-être Paris sera justement moins protégé que d'habitude.
D'où ce qui a été annoncé dans ce plan, notamment de mettre l'accent sur la formation, l'emploi des jeunes, en effet, voilà. Notamment aussi d'accélérer la transition numérique de la formation professionnelle.
Oui, alors ça, je dirais, c'était déjà quelque chose qu'on pouvait avoir dans les tuyaux, parce que la transition numérique, c'est important. Alors là, c'est vrai que si on imagine le développement du télétravail, c'est bien de pouvoir faire du télétravail, mais il faut avoir des bonnes, pour le moment, la fibre, il faudrait qu'elle soit développée un peu partout en France. Donc c'est vrai que ces plans d'investissement, ils sont intéressants aussi par rapport à ce que sera le monde post-Covid. Donc, il faut imaginer tout ça. Et donc, ces fractures, ces inégalités, elles ont tendance à être exacerbées. Donc, ce plan doit avoir un volet social important. Sachant que ce qu'on dit aussi, qui est une grande particularité de cette crise, c'est que c'est très inégalitaire, mais en même temps, les ménages n'ont jamais eu autant d'épargne. C'est là où on est sur quelque chose de très paradoxal. C'est que si vous regardez les ménages, en général, en France, épargnent à peu près 200 milliards, un peu plus de 200 milliards d'euros par an. Là, en l'espace de 4 mois, ils ont épargné 75 milliards en plus. C'est-à-dire que finalement, d'un point de vue purement patrimonial, ils n'ont jamais été aussi riches. En tout cas, ils n'ont jamais autant accumulé de façon macroéconomique, mais avec beaucoup d'inégalités derrière. Donc, il y a deux choses. C'est comment vous traitez les inégalités. Et pour ceux qui ont de l'épargne, qu'est-ce qu'on fait de cette épargne? C'est-à-dire que cette épargne, c'est le plan de relance. Vous faites des mesures de chômage partiel qui ont permis de préserver en partie le revenu des ménages. Mais si elle est épargnée, on voit que finalement, ce n'est pas très efficace d'un point de vue économique. Donc, il y a ce volet-là. Et j'attends justement de voir, dans le plan de relance, qu'est-ce qui sera fait pour donner des incitations à un dégonflement rapide de l'épargne, au-delà des mesures d'offres plus structurelles qui seront nécessaires. Mais il y a aussi un volet d'urgence, hein, pour le coup, des 6 prochains mois. C'est là où les Allemands ont fait le choix, par exemple, de la baisse de la TVA, en donnant une incitation pour 6 mois. On peut discuter de ça, on aurait pu imaginer des baisses de TVA sectorielles, éventuellement, pour une période donnée. En tout cas, je trouve que ça ne fait pas partie beaucoup du débat en France, alors même que pour moi, c'est central.
Ce sont en tout cas 100 milliards d'euros qui ont été annoncés dans ce plan de relance. Alors, comment va être financé ce plan, Anne-Laure Delatte? Ce qu'on sait déjà, c'est qu'a priori, 40 milliards d'euros seront alloués par l'Europe dans le cadre du plan de relance européen signé le 21 juillet. Pour rappel, ce jour-là, les 27 se sont finalement mis d'accord au terme d'âpres discussions sur un endettement commun. C'est un accord qui était déterminant pour la relance de l'économie française, mais aussi européenne.
Alors, d'un point de vue agrégé européen, ça a été effectivement un accord fondamental parce qu'on a montré qu'on était capable d'être unis dans une crise. Et quand on parlait de 750 milliards, on a finalement mis 390 milliards dans le pot, le reste étant des prêts. Mais effectivement, c'était historique parce que là, l'Europe va aller emprunter à la place des pays, va aller emprunter sur les marchés financiers à la place des pays et transférer cet argent aux pays membres. Qu'est-ce que ça veut dire pour les Français ? Ça veut dire que dans les 100 milliards, comme vous venez de le dire, 40 vont être financés par cet argent-là. C'est-à-dire qu'au lieu d'emprunter 100 milliards, on va en emprunter 60 et l'Europe emprunte la différence pour nous. Donc vous comprenez qu'il y a un exercice comptable en fait dans la manipulation, enfin dans le mécanisme, dans le sens où on aurait pu faire un autre choix politique qui est, on avait déjà annoncé à peu près 100 milliards avant que l'Europe mette ce mécanisme en place. Donc on aurait pu dire, j'avais décidé de faire 100 milliards, je vais en faire 110, 120, voire 140. En tout cas, je vais faire de l'additionnel. Là, on a décidé de ne pas faire d'additionnel, mais de... En fait, c'est desserrer la contrainte d'endettement de l'État français en utilisant l'Europe sur les marchés plutôt que nous.
Sachant qu'il y a peut-être des contreparties à l'usage de ces 40 milliards, un droit de regard de l'Union européenne sur l'usage qu'on en fait.
Ben oui, et c'est là que c'est intéressant, c'est que vous avez deux contreparties. Une, faire du vert. Donc on attend que le plan de relance ait une forte connotation verte. Pour l'instant, on lit qu'il y aurait 30 milliards d'investissements verts sur les 100 milliards. Donc c'est vraiment très important en fait, hein, par rapport à l'Allemagne. On est plutôt sur 15-20 milliards pour un plan un peu plus important en Allemagne.
Mais c'est une exigence européenne que ce soit un tiers du montant total du plan de relance qui soit consacré à la transition énergétique.
Alors, il ne me semble pas que ça soit un tiers, mais bon, peut-être que je me trompe. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que vous avez une deuxième exigence, c'est réforme structurelle. En fait, vous avez deux contraintes derrière le plan de relance européen, c'est vert et réforme structurelle. Sauf que vert est beaucoup moins contraignant que réforme structurelle. Et ça, c'est intéressant. Pendant la crise, la Commission européenne a décidé de relever les contraintes budgétaires. Donc on n'est plus soumis aux contraintes budgétaires des 3% de déficit. Et avec ça, on a relevé la contrainte du semestre européen, qui est un processus par lequel, en fait, on se surveille mutuellement, on surveille mutuellement nos budgets, et on impose des règles de réforme structurelle, c'est-à-dire on guide très fortement les États dans un agenda de réforme structurelle. Et là, ce qui est intéressant, c'est que on n'a pas remis en place le semestre européen. On peut pas le faire. On est encore en pleine crise. On ne sait pas s'il va y avoir une deuxième vague. La récession est importante.
Mais les subventions jouent ce rôle-là.
Et voilà, exactement. En fait, c'est vraiment intéressant d'avoir cette compréhension-là, c'est-à-dire que les réformes structurelles sont sorties par la porte et elles reviennent par la fenêtre, par le plan de relance. Donc, bon, voilà. Attendons de voir ce qui va être fait du côté vert. Tout ce qui est impôt de production, on va reparler des mesures qui sont discutées en ce moment, mais là, il faut vraiment les voir avec l'angle réforme structurelle, agenda des réformes structurelles européennes.
Un mot encore sur le financement. Donc, il y a ces 40 milliards alloués par l'Europe, mais le reste sera a priori donc financé par la dette. Il est prévu que le plan de relance, donc les 60 milliards, pèse sur les budgets 2021 et 2022. On voit que là, il y a un choix politique qui est effectivement de faire peser ce plan de relance sur la dette et non sur l'impôt.
Oui, ce serait assez incohérent d'à la fois faire de l'austérité et en même temps de la relance, enfin de l'austérité fiscale et de la relance de l'autre côté. Donc là, l'urgence, c'est de redresser l'économie. Ça, c'est assez clair. Et ce qui est intéressant, c'est que cette urgence, elle est partagée partout dans le monde parce que tous les pays sont touchés par cette crise. Donc la dette ou la question budgétaire, elle est mise au second plan pour le moment, et notamment avec l'appui des banques centrales et notamment de la BCE, qui arrive à faire en sorte que les États empruntent à des taux très bas. Ça ne veut pas dire qu'elle est écartée. Hein. Je crois qu'elle va revenir à un moment donné. Alors, certainement plus vite par la dette privée, dans un premier temps, dont on parlait, hein, la question des PGE, et comment vont être
prêts garantis par l'État.
Voilà, la dette fiscale aussi, parce qu'il y a des dettes fiscales qui ont été accumulées et qui ont été reportées. Mais la dette publique, la question de la dette publique va revenir. Surtout, de savoir quelle sera notre nouvelle trajectoire de croissance, parce que la soutenabilité de la dette dépend aussi de votre croissance potentielle. Et donc, je pense que ça sera certainement le mandat d'après, de 2022. Et d'ailleurs, on l'avait vu hein, dans la crise précédente, de 2008. C'est-à-dire que le moment de l'austérité arrive finalement en 2011, alors que la faillite de Lehman Brothers, c'est 2008. Donc, il y a à peu près deux ans et demi, c'est le décalage qu'on risque d'avoir. Et c'est vrai que la contrepartie d'avoir des facilités de financement sera certainement de faire des plans d'ajustement budgétaire, alors peut-être pas les mêmes qu'avant, et certainement des réformes structurelles. Il ne faut pas croire qu'on est encore dans un nouveau monde, encore je ne pense pas de ce côté-là. Ce qui est intéressant, c'est qu'on est dans un moment keynésien et qui est nécessaire, en tout cas, aujourd'hui, face à la situation.
Alors, vous l'avez dit, Alain Delatte, 30 milliards d'euros sur les 100 milliards du plan de relance devraient être consacrés à la transition écologique. Nous relancerons l'économie par l'écologie. Voilà ce qu'a déclaré le ministre de l'économie, des finances et de la relance, Bruno Le Maire, dans le JDD. Mais aujourd'hui, les questions restent nombreuses sur les mesures à mettre en œuvre pour décarboner l'économie. La rénovation énergétique des bâtiments qui est sur la table, c'est peut-être le chantier le moins difficile à mettre en œuvre aujourd'hui, Vincent Charlet, qu'il s'agisse de bâtiments. Bâtiments publics ou de logements privés?
Alors difficile, je n'irai pas forcément jusque-là. En tout cas, le plus facile à justifier sur le plan économique, ça oui. C'est-à-dire que ce sont des emplois qui sont difficilement délocalisables, ça alimente la machine économique et ça produit un rendement à la clé. Donc sur le papier, ça fait partie des manœuvres, des passages obligés ou des manœuvres qui ne souffrent pas de questions. Ensuite, techniquement, justement, c'est compliqué. Et la raison pour laquelle la rénovation énergétique progresse si peu en France spontanément, c'est bien parce que ça n'offre pas forcément les rendements attendus, parce que c'est coûteux et donc le rendement ne se constate que sur long terme et de façon très très agrégée, mais le propriétaire qui a investi dans la rénovation énergétique de son bâtiment s'y retrouve pas tout de suite. Voilà, donc techniquement c'est pas évident.
Mais alors plus largement sur ce plan et sur les premières mesures écologiques qui sont esquissées, ce que l'on comprend bien, c'est que cette enveloppe de 30 milliards d'euros devrait donc aussi servir à accélérer la transition écologique de l'industrie. Et là, ça paraît plus compliqué, Vincent Charlet.
À nouveau, techniquement, je ne crois pas que ce soit plus compliqué que dans le cas du bâtiment. Ce qui est déterminant, aussi bien pour l'industrie que pour les consommateurs, c'est de réussir à se projeter de façon apaisée, et c'est essentiel, de façon apaisée dans un avenir où le carbone ou le CO2 coûtera cher. Malheureusement, on est dans un pays où il y a encore certains ronds-points qui sont tenus par des permanences de gilets jaunes. Et je ne peux pas retirer ça de l'équation. C'est-à-dire que, encore une fois, sur le papier, il faut qu'on réussisse à mettre tous les acteurs économiques, à les orienter dans un même mouvement qui consiste à préparer un avenir dans lequel émettre du CO2 reviendra cher ou ne pas en émettre sera fiscalement ou récompensé. Et il faut réussir à faire passer ça, cette contrainte-là, dans une opinion qui, aujourd'hui, n'y est pas prête. C'est vrai au moins autant pour les consommateurs, qui devront accepter un jour de payer plus cher quelque chose qui a émis plus de CO2, que pour les entreprises qui, pour certaines technologiquement, ont déjà pas mal de solutions dans leur carton, dans leur tiroir, qui seront valorisées ou justifiées d'un point de vue économique lorsque précisément une taxation du carbone interviendra.
L'État, en tout cas, clairement affiché cette volonté à la fois de relancer l'industrie et en même temps de relancer une industrie qui soit verte, ce qui pose un certain nombre de questions. On va continuer à parler de toutes ces questions dans un instant.
Nous avons passé par de durs moments, nous avons encore des embêtements, et dans le pays, bien des gens vous diront, ça ne tourne pas rond. Moi, pour un peu éclairer leur ciel lourd, je dis que Paris, c'est pas fait en un jour, et simplement, sans façon, je viens chanter cette chanson. On s'en tirera, comme toujours en France, ça vient tout doucement, mais ça vient sûrement, nous pouvons convoquer l'espérance.
Et hop, on en sortira.
Tout remarchera, à brève échéance, il y aura du bonheur et le printemps reviendra.
Et hop, on en sortira.
Les petits oiseaux n'ont pas tout ce qu'il leur faut, ils chantent tout de même, ils sont gais les moineaux. En attendant le soleil et l'été, il faut les imiter. On reverra les pommes frites et le bifteck, et c'est même sûr qu'il y aura du beurre avec. Sans compter que pour l'amour, on en a déjà tous les jours.
Et hop, on en sortira.
On s'en tirera. Comme toujours en France, ça vient tout doucement, mais ça vient sûrement, nous pouvons convoquer l'espérance.
Et hop, on en sortira.
Tout remarchera à brève échéance, il y aura du bonheur et le printemps reviendra.
Et hop, on s'en sortira.
France Culture, entendez-vous l'écho, Tiffaine de Rocchini.
C'était « Et hop, on s'en sortira », le message d'espoir de Georges Grosset au lendemain de la guerre. Anne-Laure Delatte, Vincent Charlet et Mathieu Plane sont toujours avec nous pour parler des grands défis du plan de relance qui sera annoncé la semaine prochaine par le gouvernement. Nous sommes une grande nation industrielle, on ne l'assume plus depuis trop d'années. Voilà ce qu'a déclaré Emmanuel Macron dans l'interview qu'il a accordée cet été à Paris Match. 40 milliards d'euros devraient être alloués à l'industrie. C'est une bonne nouvelle, Vincent Charlet.
En tout cas, qu'on se préoccupe de la santé de l'industrie, oui. Je crois pas même que la France soit plus désindustrialisée que les autres pays, en tout cas pas plus vite. C'est un phénomène structurel qui survient à peu près sur tous les continents, et l'Allemagne, plus encore la Corée du Sud, sont deux exceptions. Il faut bien s'en souvenir comme des exceptions. L'ensemble des économies se désindustrialisent. En revanche, le tort a été sans doute d'imaginer que c'était là un phénomène purement naturel qui ne pouvait pas dissimuler de failles ou de problèmes de compétitivité. En l'occurrence, l'industrie française avait cette double particularité de suivre à la fois cette tendance qui concerne tout le monde et de souffrir d'un problème de compétitivité qu'il fallait résoudre.
Et alors aujourd'hui, il y a cet argent qui est mis sur la table, et cela passe notamment par la suppression de certains impôts de production, ouais, notamment la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Il était grand temps, selon vous, de supprimer ces impôts, Vincent Charlet ?
Ce sont des impôts qui sont réputés, qui sont admis par tout le monde comme étant des impôts idiots. C'est-à-dire qu'ils sont mal conçus et pour certains, genre ces 3S, qui ont plus d'effets délétères que d'effets positifs. Enfin, qui détruisent plus de valeur qu'ils n'en captent. Et donc, même si on oublie le Covid à l'instant et qu'on se situe hors plan de relance, hors plan de soutien, transformer un impôt mal conçu en un impôt mieux conçu, c'est-à-dire par exemple assis sur le profit et pas juste sur le chiffre d'affaires, était effectivement un mouvement intelligent.
Et une baisse de 10 milliards d'euros par an, donc, de ces impôts de production, ça vous semble un chiffre suffisant? Certains appellent à une baisse supérieure pour justement permettre à l'industrie de relancer son activité.
Alors là, on passe justement de la question technique, impôt de production versus autre impôt, à une question plus circonstanciée, dans le cas du relance, de combien faut-il porter l'effort? 10 milliards par an, c'est effectivement ce qui avait été convenu, je crois, même avant le Covid. En fait, cette promesse ou cet élément de dialogue entre l'exécutif et les branches remonte à avant. Disons que dans le contexte du plan de relance, c'est une promesse antérieure qui a été maintenue ou remise à l'agenda.
C'est une bonne chose, selon vous, Anne-Laure Delade, de supprimer les impôts de production, même si ça suppose tout de même des baisses de recettes pour les collectivités qui perçoivent ces impôts.
Oui, en fait, dans la première question à laquelle vous répondiez, vous disiez remplacer un impôt idiot par un impôt intelligent, ça ce serait malin. Mais le problème, c'est qu'on ne le remplace pas par un impôt intelligent, puisqu'on est plutôt dans une tendance structurelle à la baisse de l'impôt sur les sociétés. Donc, moi, ce que je vois, c'est que on réduit le taux de taxation sur les sociétés. Et donc, on va baisser les recettes et on n'a pas du tout de débat fiscal qui pourrait nous permettre de comprendre, d'avoir une vue un peu plus large sur ce qu'on veut faire, en fait, de ces recettes et comment est-ce qu'on va assumer la baisse de ces recettes. Ce que je vois, c'est que dans un plan de soutien qui s'occupe de l'offre ou de la demande, là, on est vraiment, quand on fait ça, et qu'on ne compense pas par disons, une augmentation même moindre de l'impôt sur les sociétés, on est vraiment sur un plan de soutien à l'offre.
C'est un simple cadeau aux entreprises, Mathieu Plane ?
Alors, moi, j'aurais une analyse un peu partagée là-dessus. C'est-à-dire que, effectivement, les impôts sur la production pénalisent pas mal le tissu industriel français, quand on voit notamment vis-à-vis de l'Allemagne. Enfin, même si le problème de compétitivité, à mon avis, n'est pas qu'un problème de compétitivité coût, et que les impôts en font partie, mais c'est pas le seul problème. Bon, donc si on doit baisser les impôts sur les entreprises, effectivement, je ciblerais plutôt les impôts sur la production, je suis d'accord avec ça. Sauf que pour le coup, comme ce que dit Anne-Laure, c'est que là, on n'est pas dans une mesure de relance, c'est-à-dire que c'est une mesure de compétitivité, c'est-à-dire que c'était déjà dans les tuyaux. C'est un moment dont on parle, les impôts sur la production. On saisit l'opportunité de la crise pour faire une mesure qui est plus structurelle, qui est une baisse d'impôts sur la production. Sauf que ça, c'est pas de la dette Covid. Parce que si on fait une mesure structurelle de compétitivité, pourquoi, à ce moment-là, les Allemands, les Hollandais, les Espagnols, les Italiens paieraient pour nos baisses d'impôts? Donc là, à ce moment-là, il faut trouver un financement adéquat en face. Et donc, ça pose la question de la fiscalité dans sa globalité. Donc, il faut une réforme fiscale avec un transfert de fiscalité. C'est-à-dire qu'il faut baisser les impôts sur la production. À ce moment-là, il faut les monter ailleurs, où il faut baisser la dépense publique. Mais alors, il faut le dire, et ça va être douloureux. Donc, c'est là où je veux dire, c'est qu'un plan de relance, et on parle souvent de la règle des 3T, c'est-à-dire le timely, ça veut dire le mettre au moment opportun. Targeted, ça veut dire qu'il faut que ce soit ciblé sur un certain nombre de choses et de secteurs de fiscalité. Il y a aussi le transitory, c'est-à-dire que ça doit être transitoire. C'est-à-dire que là, on est plutôt sur accélération de certaines mesures. Alors, sur l'écologie, c'est très bien, mais c'était quelque chose qu'il fallait déjà faire. Mais là, sur les impôts sur la production, on se demande si on n'aurait pas fait de toute façon. Donc, je dis, est-ce que c'est finalement si adapté que ça à la crise, ou c'est plutôt on prend la crise comme opportunité pour baisser les impôts? Donc c'est pas forcément, c'est une bonne chose en soi, mais c'est pas forcément une bonne chose pour, comme réponse à la crise.
Il y a en tout cas effectivement une volonté de se situer dans un plus long terme. C'est ce que disait le Premier ministre Jean Castex. Il faut en finir, selon lui, avec les politiques de court terme. On l'écoute lors de son discours de politique générale à l'Assemblée nationale. C'était le 15 juillet.
L'État doit aussi retrouver les voies de l'anticipation. L'action de l'État a été trop souvent réduite à la simple gestion des crises et des urgences. Nous avons progressivement perdu notre capacité à nous projeter dans le long terme, à planifier une politique économique, à identifier les gisements de croissance futurs, à définir une perspective. C'est la raison pour laquelle le président de la République souhaite la création rapide d'un commissariat général au plan qui aura pour mission d'incarner et d'animer une telle politique.
Le Premier ministre a donc annoncé la création, ou plutôt le retour du commissariat général au plan, si cher au général de Gaulle. Pour rappel, le poste de commissaire au plan avait été inauguré en 1946 par Jean Monnet. Qu'est-ce que vous pensez de cette idée, de ce retour, Vincent Charlet? L'industrie française a besoin de planification?
Je suis partagé. Pour plusieurs raisons. D'abord, des raisons institutionnelles. Pardonnez-moi de commencer par là, mais le commissariat général au plan, a priori, existait encore. Il s'appelait pas comme ça, il s'appelle France Stratégie. Mais il y a des institutions qui continuaient à assumer les missions du plan en les ayant adaptées au contexte moderne. Donc l'annonce de cette création pose immédiatement la question de que demande-t-on aux institutions qui existent encore, qu'est-ce qu'on leur demande de faire, de produire comme étude. C'est une première question. La deuxième... Bon, le plan a laissé des souvenirs émus à beaucoup, beaucoup de gens. C'est vraiment, politiquement, c'était un pari gagné d'avance que d'annoncer la création de cette chose qui ne recueille que des souvenirs positifs ou presque. Pour moi, il y a deux éléments essentiels dans les souvenirs que j'entends évoquer. Un, la planification. Et deux, le dialogue social ou la concertation entre les parties prenantes. Or, je constate que toutes les personnes qui me parlent aujourd'hui très positivement de leurs souvenirs, même des travaux qu'ils ont engagés dans ce cadre-là, c'était la possibilité de dialoguer au plus haut niveau, c'est-à-dire en gros au plus près possible du Premier ministre, entre dirigeants, représentants de salariés et représentants de la société civile.
Est-ce qu'aujourd'hui ça serait rendu possible par cette création?
J'espère, enfin, mais il y a d'autres cadres aussi qui, je pense notamment au Conseil économique et social, qui servaient cette mission-là. En tout cas, pour répondre à vos questions, je ne suis pas sûr que l'ingrédient technique de la planification soit ce dont on ait le plus besoin aujourd'hui.
Anne-Laure Delatte, sur cette question de la planification qui peut apparaître effectivement comme la solution miracle qui rappelle les 30 glorieuses.
Là, j'ai vraiment l'impression qu'on fait du neuf avec du vieux. Hein. Comme on vient de le dire, ça existait jusque dans les années 90 ou 2000. Ensuite, on a créé France Stratégie à partir de quelque chose qui s'appelait le plan jusqu'ici. Et en fait, on ne connaît pas exactement la façon dont ça va être fait et on n'est pas exactement au clair sur ses missions, sur les différentes institutions qu'il va coordonner. Mais ça a l'air de ressembler énormément à l'ex, avant France Stratégie. C'est-à-dire qu'on va reprendre France Stratégie et on va mettre quelqu'un d'un peu plus, peut-être plus musclé politiquement.
Mais derrière, il y a quand même l'idée, pardon de vous interrompre, d'un État stratège, d'une volonté de l'État de s'impliquer davantage. Est-ce que ça, c'est pas une idée intéressante?
Il faut voir les moyens en fait qui sont mis en face et pour l'instant on n'a pas, si vous voulez, aujourd'hui c'est ce qui existe, c'est une coordination de différents instituts, commissariats au plan et ça permet de produire une connaissance qui permet de nourrir la politique économique. Mais c'est pas franchement branché au Premier ministre. Si là on est un peu plus branché au Premier ministre, ça peut être intéressant, mais on a déjà, il y a déjà énormément d'outils de politique économique au service du Premier ministre et au service de Bercy. Donc,
ça risque d'être un outil de plus pour vous aussi, Mathieu Plane, qui n'aura pas forcément l'utilité qu'on voudrait lui donner.
Comment dire, non, ça peut être intéressant, il faut voir comment c'est mené. C'est-à-dire qu'on a eu plutôt un désengagement de l'État jusqu'à présent, ça fait 30 ans. Donc c'est savoir, est-ce que c'est de l'affichage ou est-ce que l'État réinvestit le domaine industriel, quoi. Est-ce qu'il définit des compétences, des actifs stratégiques, y compris qui sont pas forcément très rentables, hein, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on doit fabriquer dans ce pays ou pas. Est-ce que, par exemple, c'est stratégique de fabriquer des respirateurs, des choses comme ça. Donc je veux dire, il faut avoir quelque chose de concret. Définir une politique industrielle, c'est aussi quel va être le rôle de l'État dans cette politique industrielle. Donc vous pouvez pas juste dire on va réfléchir et dire ça serait bien, tiens, dans 10 ans... qu'on fasse le véhicule autonome, c'est comment vous réunissez les entreprises, les partenaires sociaux pour dire au fait comment on réunit tous ces acteurs pour développer le véhicule autonome et quel est le rôle de l'État dans cette coordination. À l'époque d'Arnaud Montebourg, je me souviens, il y avait eu les 34 plans de la Nouvelle France Industrielle où il y avait justement cette ambition un peu de mettre ça autour de la table. Donc on voit que c'est pas évident, c'est-à-dire quelle est l'ambition de l'État et quel moyen est là pour réunir ses partenaires. Sachant que on peut penser que pour un certain nombre de choses, l'échelle peut être aussi européenne, hein, là-dedans. Donc, moi, je trouve que sur le papier, c'est intéressant, mais maintenant, on veut avoir aussi le livre qui va avec et comment on fait tout ça, quoi.
Un investissement plus fort de l'État dans l'industrie, dans le tissu industriel français, Vincent Charlet, si ça prend cette forme-là, est-ce que c'est une idée intéressante pour vous?
Mathieu vient de pointer.
Est-ce que certains retards industriels en France ne sont pas liés justement à ce désengagement de l'État? On peut le dire par rapport à la Chine notamment, avec l'idée que l'État devrait s'investir davantage et alors, soutenir son industrie.
Justement, là on est en train de commenter la création, l'annonce d'un commissariat général au plan et pas d'un renforcement de la direction générale de l'industrie par exemple. Or, ma compréhension c'est que si on parle d'un commissariat général, il adresse l'ensemble des questions qui se posent à l'économie et à la société française. Donc le véhicule autonome sera un de ses sujets de travail, une fois tous les pas souvent. Deuxième remarque, ces travaux, ces exercices de planification ne marchent de façon véritablement efficace et opérationnelle, à ma connaissance, que dans les pays asiatiques, qu'ils soient communistes ou capitalistes, mais là on trouve des configurations de travail avec un engagement très fort de l'État et des plans qui sont édictés puis suivis avec les résultats que l'on sait. À l'autre extrême, dans le monde anglo-saxon, l'idée même fait fuir. C'est-à-dire que c'est une évidence partagée par tous les acteurs économiques que ce genre d'exercice de concertation fait perdre plus de temps et d'énergie que ça n'en fait gagner. Et nous, on est à une espèce d'intermédiaire où on trouve pas mal d'avoir une coordination soft et de mettre ça dans un plan puis de se revoir tous les 5 ans pour ça.
Est-ce que ce modèle asiatique n'est pas transposable en France?
Pas à 100%. En tout cas, plusieurs exercices de planification, écriture des technologies clés, des domaines stratégiques, que vous regardiez d'ailleurs dans le périmètre du ministère de l'Industrie ou du ministère de la Recherche chargé de l'innovation ou de l'énergie, c'est toujours, ou des transports, l'équipement. On a toujours à peu près le même constat. C'est-à-dire qu'il y a un attachement, on va dire, affectif et intellectuel pour ces exercices de prospective avec la dimension de concertation qu'on a évoquée. Ça aligne pas des bataillons de gens qui après appliquent ça le doigt sur la couture du pantalon. Hein.
L'autre question qui se pose, c'est la personne qui serait le mieux placée pour diriger ce nouveau commissariat au plan. Alors évidemment, on a entendu que ce serait a priori le président du Modem, François Bayrou. Mais pour vous, Mathieu Plane, quel serait le candidat pour ce genre de structure? Et qu'est-ce que ça suppose en termes de tutelle notamment?
Forcément, s'il y a un poids politique important, on peut penser que le plan sera mieux représenté au sommet de l'État. Oui, mettre une personnalité politique influente et forcément proche du président, ça aidera à faire passer les choses. Maintenant, est-ce que c'est un poste plutôt pour faire plaisir à un homme ou une femme politique, ou est-ce que vraiment il y aura un vrai contenu derrière? C'est ça la question. Forcément, le poids politique peut jouer en faveur du plan.
Il y a effectivement la crainte que ce soit une coquille vide. Et en même temps, on a vu pendant ce confinement qu'un certain nombre de questions étaient soulevées en termes de souveraineté industrielle. Le fait que certains produits devraient être fabriqués en France pour des questions d'indépendance, les médicaments notamment. Est-ce que, selon vous, Vincent Charlet, il y a certaines industries qui devraient être relocalisées en France? Et quelles sont les conditions qui permettraient de juste relocalisation?
Alors, les actifs dits stratégiques, ceux dont la nation a cruellement besoin, y compris en temps de crise, ils existent, mais ils sont assez peu nombreux. Ils existent et ils étaient d'ailleurs, pour certains, déjà listés. En particulier, le ministère des Armées tient ce genre de réflexion à jour. Bon, on a eu un éclairage un peu nouveau ou renouvelé sur la question des médicaments et du matériel médical. Je reste absolument convaincu, et pour moi, la crise nous l'aura confirmé, que la souveraineté consiste à être maître de son destin et pas à faire tout chez soi, ou à être seul chez soi. Et donc, si Airbus a dû mettre ses lignes à l'arrêt pendant quelques semaines, pendant le confinement, c'est pas parce que la mondialisation s'était arrêtée ou parce que ses partenaires asiatiques ne lui apportaient plus les pièces détachées, c'est parce que l'usine d'à côté ou du département d'à côté, faute de salariés, ne pouvait pas lui donner les pièces détachées dont elle avait besoin. Je pense pas qu'il faille surinterpréter cette dépendance à autrui, cette dépendance à l'extérieur. Vous ajoutez à ça que malheureusement certains principes actifs, c'est comme les terres rares, on les trouve que à l'endroit où la nature les fait émerger. Bref, ça fait pas beaucoup de produits qui, au final, la liste peut être peut-être un petit peu mise à jour, oui, complétée, mais ça fait pas beaucoup de produits qui, au final, doivent absolument être relocalisés pour des raisons stratégiques.
Sans oublier qu'il faudrait un consentement des consommateurs à payer éventuellement davantage si on relocalise certaines industries.
Oui, mais sauf que le phénomène quand même, je sais pas si on peut l'appeler comme ça, mais démondialisation en tout cas une mondialisation comme on l'a vu, et commence à avoir de l'aile, du plomb dans l'aile, pardon. On le voit à la fois parce que y a d'abord les relations commerciales sont quand même assez tendues, on l'a vu avec les droits de douane, etc. On voit que finalement aussi les coûts de production augmentent dans ces pays-là, on voit qu'il y a la question écologique et du transport. Maintenant, c'est comment on fait pour accélérer le phénomène. C'est-à-dire que dire il faut peut-être une taxe carbone aux frontières européennes donnerait un prix au carbone qui est plus juste et qui fait qu'il inciterait les producteurs à produire près du consommateur. C'est ça l'idée. Hein. C'est pas juste de dire il faut de la souveraineté absolue. C'est à la fois, et puis il y a la question sociale aussi, il y a le dumping fiscal, le dumping social. C'est aussi qu'est-ce qui est juste aujourd'hui dans un monde où on veut plus d'écologie. Donc je pense que la relocalisation, elle doit s'accompagner de ça. C'est-à-dire être plus proche du consommateur, c'est bien écologiquement. Si vous voulez un modèle social, il vaut mieux qu'il soit produit, enfin votre production soit faite dans des bonnes conditions. Et puis la question fiscale, c'est-à-dire est-ce qu'il est normal que des pays puissent attirer beaucoup de capitaux parce qu'ils n'ont pas de fiscalité sur les bénéfices des sociétés? Moi je dis non. Donc ça veut dire que derrière il y a d'autres enjeux. Ça va pas se faire du jour au lendemain, mais il faut réconcilier tout ça et ça me semble quand même les enjeux de demain.
Et est-ce que ce souhait de relocaliser en France est la meilleure des choses, Anne-Laure Delatte, dans le sens où on peut imaginer que c'est plutôt au niveau européen qu'il faudrait s'organiser?
Oui, je suis en effet étonnée de ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que ça soit pour le plan ou pour une stratégie industrielle, il faut absolument discuter entre Européens là-dessus, et la Commission européenne est censée faire jouer l'arbitre et faire une coordination. Alors on n'a pas complètement les moyens, mais c'est quand même un endroit dans lequel les Européens sont censés discuter, même si elle n'a pas du tout la gouvernance d'un ministre de l'industrie ou autre.
Et sur les industries qui, selon vous, devraient être relocalisées.
Mais justement, non. Enfin, je voulais revenir. On entendait au début Emmanuel Macron dire qu'il fallait que la France soit le champion de l'hydrogène, hydrogène vert. Mais les Allemands sont en train de dire exactement la même chose. Et ils mettent beaucoup de moyens là-dessus. Donc, ils vont probablement y arriver avant nous. Donc c'est intéressant, mais c'est peut-être là le moment d'essayer de se coordonner. On doit jouer probablement une certaine concurrence dans un espace économique, mais ça devrait énormément nous inquiéter d'entendre deux chefs de l'État européens avoir la même stratégie en ce moment. Voilà. Alors après, sur la relocalisation...
40 milliards d'euros, c'est tout de même une somme considérable à investir dans l'industrie.
Oui, mais pas dans l'hydrogène vert. C'est-à-dire que ce qu'on reproche beaucoup pour l'instant au plan de relance qu'on ne connaît pas, c'est, en tout cas, on craint beaucoup le saupoudrage. C'est-à-dire que quand vous lisez le plan de relance allemand, c'est assez clair, en fait. Il y a assez peu de lignes et il y a vraiment une stratégie sur l'hydrogène vert. C'est-à-dire que on a pour la première fois pas donné de prime à l'automobile classique, moteur thermique. On a donné un peu de prime pour acheter de l'électrique et il y a un gros montant qui est dirigé directement vers le développement de l'hydrogène vert, qui est apparemment une alternative à tout ce qui est énergie fossile. Bon, alors encore une fois, on ne connaît pas le plan de relance, mais ça n'a pas filtré. C'est-à-dire que c'est une ligne parmi tant d'autres. Et voilà, on craint beaucoup le saupoudrage dans pas mal d'industries. Pourquoi ? Parce que c'est aussi le jeu des lobbies. Hein, c'est-à-dire que les différentes industries, les différents secteurs économiques sont probablement beaucoup à la porte de Bercy en train de faire valoir leurs intérêts.
Il y a un risque de saupoudrage, Vincent Charlet, alors même qu'il faudrait peut-être effectivement sélectionner des industries spécifiques dans lesquelles investir.
Je n'ai pas d'informations sur le risque de saupoudrage. Malheureusement, en fait, ces boucles rhétoriques, on les entend. C'est-à-dire que quand des domaines, on va dire, prioritaires sont ciblés, alors là, on crie au poids des lobbies en disant qu'il aurait peut-être fallu laisser jouer plus librement le marché. Et quand on accorde des subventions ou des aides à différents secteurs, on parle de saupoudrage.
Effectivement, comment choisir les domaines en question ?
Oui, c'est toujours forcément un exercice délicat. Compliqué. Je crois en tout cas que l'hydrogène, par exemple, c'est un exemple intéressant. C'est effectivement une démarche technologique nécessaire pour progresser ensemble vers un avenir décarboné, parce que concrètement ça joue un rôle déterminant et comme source d'énergie et même comme pour le stockage de l'énergie. Mais si les États, alors la France ou l'Allemagne, ont pu répondre à cette demande ou envisager cette cible-là, c'est aussi parce qu'ils ont eu la confirmation que les entreprises étaient prêtes. Alors on peut appeler ça du lobbying si on veut, mais en l'occurrence, il y a une filière qui s'est organisée et qui a dit, ben nous, voilà ce qu'on veut vous, entre guillemets, proposer, ou j'ose pas dire promettre. Le marché, les branches se sont mises en ordre de marche pour pouvoir fournir un plan d'action convaincant sur un domaine qui est jugé nécessaire.
Ce qui suppose une bonne circulation de l'information, encore une fois. Alors on arrive presque au terme de cette émission. On le disait, ce plan de relance est attendu depuis plusieurs mois. Sa présentation a été repoussée d'une semaine. Vous parliez du bon timing, Mathieu Plane, pour parler en bon français. Est-ce que ce plan ne risque pas d'arriver au mauvais moment, justement, alors que l'épidémie reprend la vigueur et qu'un reconfinement, même s'il a été rejeté par le président de la République, ne peut pas être complètement exclu ?
Oui, on est. Enfin, voilà, c'est la grande particularité de cette crise, c'est que, à la fois, c'est une course contre la montre pour sauver les meubles, on va dire, vulgairement, et en même temps, on sait bien qu'il y aura un monde après Covid qui sera quand même différent. Donc il faut gérer les deux. Et c'est vrai que je trouve que les Allemands ont été très pragmatiques de ce côté-là. Ils sont intervenus très vite, avec des mesures assez ambitieuses, assez simples en fait, mais qui semblent coupler pas mal à la fois le court terme et plutôt le moyen et long terme. Nous, j'ai l'impression que même si c'est, une fois de plus, il faut saluer qu'il y ait 100 milliards, hein, c'est quand même pas rien, et que le chômage partiel c'était beaucoup, donc on a pris quand même la dimension de la crise, mais je pense que la question qui reste en suspens, c'est vraiment cette épargne, ces 75 milliards, ce calcul nous qu'on a fait, qui montrait que si c'est à se redéverser dans l'économie, on divisait par deux les effets de la crise. Donc c'est pas rien, et le gouvernement a misé sur la confiance pour que cette épargne se reverse dans l'économie. Or, quand on voit le contexte actuel, soit économique, soit sanitaire, j'ai peur que la confiance soit pas forcément au rendez-vous. Donc, il faut des incitations fiscales. J'espère qu'elles arriveront.
Il va falloir regarder effectivement dans le détail ce qui a été, ce qui sera proposé dans ce plan de relance qui sera donc présenté la semaine prochaine. On suivra cela de près. Un grand merci à tous les trois pour cette passionnante discussion qui ouvre donc notre nouvelle saison d'Entendez-vous l'écho. Mathieu Plane, directeur adjoint de l'OFCE à l'OFCE, Anne-Laure Delatte, conseillère scientifique au CEPI, Vincent Charlet, délégué général de la Fabrique de l'Industrie. Merci infiniment à tous les trois. Charlie drank it till his eyes burned and forgot to eat his lunch. Pain was built into his body, heart so soft. On se quitte avec le dernier titre d'Arlo Parks, Hurt. Et demain, nous entamons donc une nouvelle série dédiée à l'Homo economicus au temps du coronavirus. L'économiste Bernard Gazier nous emmènera dans les coulisses de l'entreprise. En attendant, vous pouvez écouter ou réécouter toutes nos émissions sur notre site franceculture.fr et en podcast. Et nous retrouver sur Twitter sur le compte d'Entendez-vous l'écho.